7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'écouter Radio de la Paix pour vous informer. En titre de ce 7 heures, le vice-président de la République a échangé avec une délégation du FMI hier au palais présidentiel, au centre des échanges, l'activité macroéconomique et les défis liés au changement climatique. Parlons de violences et crimes en milieu universitaire en Côte d'Ivoire. Les religieux se disent préoccupés par ces actes et tout en souhaitant une analyse minutieuse, ils demandent aux autorités d'initier un débat national afin de sauver les enfants. Au Bénin, les acteurs internationaux du coton se sont réunis au palais des congrès de Cotonou pour réfléchir à l'évolution de la filière, notamment sur le continent africain. C'était lors de la journée mondiale du coton les 7 et 8 octobre dernier. La clôture de cet événement avec Ghislain Koulibaly dans cette édition. Et puis Ghislain Koulibaly qu'on retrouvera également pour la revue des titres des journaux ivoiriens paru ce jeudi. En toute fin d'édition, l'invité de la rédaction, le professeur des lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny et observateur averti de la scène sociopolitique ivoirienne, Jean-Marie Kouakou, se prononcera sur la crise au sein du Front populaire ivoirien dans un entretien de Soro Adams. Voilà pour nos grandes lignes. Une délégation du Fonds monétaire international conduite par son chef de mission Olaf Unteroberster a été reçue en audience par le vice-président ivoirien Kone Thiemoko-Mélié hier mercredi au palais présidentiel. Objectif, faire part de l'accord avec la Côte d'Ivoire sur deux programmes économiques et environnementaux que le Fonds monétaire international soutiendra. Les explications de Olaf, chef de mission du FMI.
C'est que nous avons un accord au niveau des services concernant
deux programmes du gouvernement. Le premier programme a pour objectif la stabilité macroéconomique et la transformation encore plus profonde qui permettra la Côte d'Ivoire de joindre le groupe des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Et le deuxième programme permettra à la Côte d'Ivoire de confronter les défis liés au changement climatique. L'approbation de ces revues par le conseil d'administration du Fonds monétaire entraînera un décaissement d'environ 820 millions de dollars EU.
À l'instant, Olaf Unteroberster, chef de mission FMI, Fonds monétaire international pour la Côte d'Ivoire. Une autre délégation en visite en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, CCUAC. Il entreprend une mission d'évaluation physique en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jeudi 10 octobre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Au micro de Matatouré, retrouvons sa présidente Seynabou Ndiaye Diakaté qui explique les objectifs de cette convention. Mis en place depuis 2003.
Cette convention prévoit un mécanisme de suivi de l'application de la convention par les États signataires. Donc c'est ce conseil-là qui aujourd'hui se déplace à Abidjan. C'est justement pour vérifier, après avoir reçu les réponses écrites de la Côte d'Ivoire, le niveau de mise en œuvre des dispositions qui découlent de l'engagement de la Côte d'Ivoire en ratifiant cette convention. Si on devrait donner une note, mais on ne donne pas de note, mais si on devrait en donner, je pense que la Côte d'Ivoire aurait une très très bonne chance. Le cadre juridique est là, le cadre institutionnel est mis en place, mais vous savez, entre la mise en place d'un cadre et l'effectivité de ce cadre, il peut y avoir un gap. Donc on est là pour faire des recommandations aussi à l'État de Côte d'Ivoire, pour échanger les bonnes pratiques. Et parmi les bonnes pratiques, nous avons remarqué l'existence d'un conseil supérieur dans lequel l'exécutif ne siège pas.
Vous écoutez Seyna Boundiaye Diakaté, présidente du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption. Parlons de coopération et diplomatie parlementaire. Les États-Unis s'informent de l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de ce pays en Côte d'Ivoire l'a exprimé mardi en fin de soirée au sortir d'une audience que lui a accordée le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bick Togo. Écoutons Jessica Abba Davis dans des propos recueillis par Junior Cardin.
C'était une très bonne échange. On a parlé en fait de la force des institutions, de l'importance de la démocratie, de la participation des citoyens, des responsabilités des électeurs et aussi des représentants dans l'Assemblée nationale comme notre Congrès américain aussi. On a pu échanger avant sa visite à Washington, Son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour échanger avec les autres parlementaires aux États-Unis. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que les membres de Congrès américain comprennent la diplomatique parlementaire, qui peuvent comprendre les régions de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons planifié sa visite, les échanges et de continuer à travailler ensemble pour identifier les priorités entre nos deux pays sur les questions aussi de la démocratie et le système de gouvernement de nos deux grands pays. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que les citoyens ont toute l'opportunité, l'espace pour s'exprimer et de participer dans le processus démocratique.
Jessica Abba Davis, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et avant elle, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bick Togo, a échangé avec l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Jeroen Kelderuis. Et les échanges ont porté principalement sur le renforcement de la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Rappelons que les Pays-Bas est le premier pays importateur de la Côte d'Ivoire. Violences et crimes en milieu universitaire en Côte d'Ivoire. Les responsables religieux montent au créneau pour dénoncer cet état des faits et appellent à la recherche de solutions pour pacifier cet espace d'études. Au nom de la commission épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, le père Norbert-Éric Abécan suggère une table ronde afin de réfléchir sur comment lutter contre la violence en milieu scolaire et universitaire. On l'écoute.
Il s'agit de mort d'homme. Alors, notre préoccupation pour nous, la Commission épiscopale Justice et Paix, c'est cela d'abord. Ce respect de la vie humaine. On a l'impression que la vie humaine ne compte pas et on peut tuer facilement comme ça. Alors, c'est pas un seul cas, c'est plusieurs cas. Il faut remonter encore très loin avec Père Son Âme, Cyril Zébier et tous encore. Alors, ça nous pose problème et je crois que nous sommes tous interpellés pour être au chevet de notre école, pour être au chevet de notre université. Avant, l'on disait que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Maintenant, les données ont changé, il faut revoir les choses. Pour préparer la paix, il faut préparer la paix. Donc, la violence, on peut trouver une solution. On peut aller contre la violence.
En faisant quoi?
D'abord, en essayant d'inculquer cette idée de la non-violence. Et donc, essayer d'avoir des rencontres, c'est-à-dire avoir une table ronde où professeurs, étudiants, gouvernement, parents, pour parler franchement, pour mettre casse sur table, pour essayer de dire non à la violence. Maintenant, voici ce que nous pouvons faire. Donc, le dialogue.
Et à sa suite, la communauté musulmane se dit indignée par cette violence qui a pris en otage l'école ivoirienne. Pour elle, la responsabilité de tous est engagée dans cette situation qui n'a que trop duré. L'imam Cissé Djigiba, imam de la grande mosquée du Plateau, également membre du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, en parle.
Je crois que c'est une situation dramatique. Elle est tout simplement difficile pour les parents et pour toute la communauté ivoirienne dans son ensemble. Le moment est venu de prendre chacun et chacune la responsabilité définitive de mettre fin à cette douleur et à cette crise. Et ça dure des années et les victimes sont très nombreuses. Et donc, ça ne peut pas être seulement l'affaire d'une seule communauté musulmane ou chrétienne. C'est un débat national. Il est donc important pour nous, n'est-ce pas, en tant que religieux, de m'adresser aux parents, tous les parents. Parce que ces enfants, ce sont nos enfants. Nous les avons vus naître, nous les avons vus grandir et arriver à ce seuil intolérable de comportement. Il est important que chacun de nous parle à ses enfants. Bien sûr, la responsabilité de l'État est au plus haut degré engagée, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce drame-là prenne définitivement fin.
Mais en termes de mesures, vous penseriez à quoi ?
En matière de mesures, il y a toujours des solutions, il n'y a pas de problème sans solution. Toutes les mesures qui peuvent permettre l'arrêt systématique de ces crises et de cette violence.
À l'instant, l'imam Cissé Djigiba, imam de la Grande Mosquée du Plateau. Avant lui, nous écoutions le père Norbert-Éric Abécan, président de la Commission épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique. Et tous les deux ont été joints par Soro Adams. Autre sujet à présent, on se rend dans la région du Poro pour parler de l'école primaire publique du village de Nanga-Serégué, qui est désormais dotée d'une cantine scolaire. C'est un don de la Fondation Gomblé du nom du géniteur du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Retrouvons sur place pour plus de détails notre correspondant régional Tommy Corona.
Dotée d'une capacité de 500 places assises, la cantine scolaire comprend également un réfectoire spacieux, une cuisine intégrée et un magasin de stockage. Madame Fofana Koulibaly Diatou, secrétaire exécutive de la Fondation Gomblé.
La cantine scolaire n'est plus un luxe, car elle permet aux élèves de rester à l'école. Elle permet et facilite le maintien des élèves. Il n'est plus question d'aller manger à la maison à midi et puis d'avoir la paresse de revenir l'après-midi. Le taux de fréquentation de l'école a accru et ça c'est une bonne chose. La cantine scolaire permet aussi aux parents d'être tranquilles dans la tête. Ils peuvent vaquer à leurs occupations champêtres sans aucun problème, étant assurés que leurs enfants auront de quoi manger.
Kone Mahamadou, coordonnateur des cantines scolaires de la région du Poro, revient ici sur quelques avantages du programme.
C'était de rétablir la parité entre filles et garçons dans les classes. 30 ans après, la cantine continue de jouer ce rôle. Vous faites œuvre utile.
Soulagement et joie perceptible chez ses parents d'élèves. Témoignage.
Soro Yaya, Bengabuku. Je suis très fier pour la cantine qu'ils ont offert aux enfants. Parce que ça nous range beaucoup.
Soro Gélaza, Bengabuku D. Vous les bien faire les fêtes là. Vraiment, le cadeau là, ça me plante bien même. Je suis content sur la cantine. Vous aimez, merci.
Cette initiative vise à transformer le paysage éducatif de cette zone qui regroupe plusieurs villages. Tommy Corona, de retour de Nanga-Serégué, Radio de la Paix.
Dans l'actualité, hors de nos frontières, on parle de la journée mondiale du coton célébrée cette année au Bénin les 7 et 8 octobre dernier. Acteurs du secteur cotonnier, décideurs politiques et partenaires internationaux se sont retrouvés pour réfléchir à l'avenir de cette filière clé pour l'économie africaine. Cette édition a été marquée par des engagements concrets visant à promouvoir la transformation locale du coton et à renforcer l'autonomisation des cotonculteurs des pays du C4 notamment. Le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali, rejoints par la Côte d'Ivoire. Ghislain Koulibaly revient sur les moments forts de cette rencontre et les perspectives autour de cet or blanc.
Les principaux producteurs de coton africains se sont battus pour obtenir une reconnaissance de leur filière. Ce combat a abouti à la création de la Journée mondiale du coton par les Nations Unies. Aujourd'hui, l'enjeu est de passer à la transformation locale pour mieux autonomiser les cotonculteurs africains. Moussa Alassane Diallo, coordonnateur des pays du C4+.
Il y a lieu de changer de paradigme en accordant la primauté au développement endogène par la transformation du coton sur place dans nos pays à travers la réalisation de projets structurants dans les secteurs du coton, tout en poursuivant la noble mission de lutter pour la réduction, voire l'élimination des soutiens internes accordés par les pays développés et certains pays en développement à leur cotonculture.
Des partenaires stratégiques se mobilisent pour soutenir cette initiative. L'instance dirigeante du football mondial s'est engagée à accompagner la filière cotonnière. Gianni Infantino, président de la FIFA.
Grâce au pouvoir du football, nous espérons contribuer au développement de chaînes de valeur modernes et durables dans toute l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne la transformation du coton en textile.
L'Organisation mondiale du commerce, OMC, de son côté, soutient cet effort pour faire du coton un levier de croissance économique pour l'Afrique. Dr Ngozi Okonjo-Iweala.
Nous devons maintenir la dynamique et saisir les possibilités d'aider les pays de C4+, et tous les producteurs de coton, à utiliser le secteur pour maximiser les gains en matière de croissance, d'emploi et de développement.
Le secteur doit encore relever des défis majeurs, les impacts climatiques et les enjeux sécuritaires qui affectent les régions de production.
Merci à vous, Ghislain Koulibaly, pour ce compte-rendu sur la clôture de la Journée mondiale du coton célébrée cette année au Bénin, les 7 et 8 octobre dernier. Et vous restez avec nous parce que ce matin également, vous vous êtes chargé de parcourir les unes des journaux ivoiriens parus ce jeudi. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette revue des titres, Ghislain Koulibaly? Bonjour déjà.
Bonjour Linda, bonjour à toutes et à tous. Hier, le président de la commission électorale indépendante CEI s'est exprimé à l'Assemblée nationale. Et à ce sujet, l'expression titre présidentielle 2025, l'horizon devient plus quand les propos de Koulibaly hier aux députés. Le journal Le Matin renforce cette idée avec éligibilité à la présidentielle de 2025. La CEI clôt le débat sur le cas Gbagbo en citant cette phrase clé. Le président Gbagbo ne pourra figurer sur la liste électorale qu'une fois qu'il recouvrera ses droits civils et politiques. En parallèle, le nouveau rêve met l'accent sur un autre aspect en autant que les députés du PDCI ont soulevé des anomalies concernant la liste électorale, tandis que le Temps parle de 2,5 millions d'électeurs inscrits de manière anormale. Du côté du PPACI, l'enlèvement et la détention de Dosso Charles Rodel suscitent toujours de vives réactions. Le quotidien d'Abidjan rapporte que Gbagbo appelle à la mobilisation de ses militants, annonçant des mesures importantes. La Voix originale titre de son côté, Dosso Rodel, son fils écroué. Le PPACI dénonce une intimidation de trop. Avec cette déclaration forte de Tchéidé Jean Gervais, rien ni personne ne peut effrayer ou intimider le parti du président Gbagbo. Et sur le plan des relations politiques, Soir Info revient sur la visite d'une délégation du PPACI chez Pascal Afinguessan, que Notre Voix qualifie de visite mémorable en soulignant l'émotion de Afinguessan. Et puis autre sujet majeur de la journée, l'herpissement des occupants illégaux de la forêt classée de Bonon, c'est à Boisflay. L'essor ivoirien détaille cette opération en notant que le ministre Amédée Kouakou a apporté la compassion du gouvernement aux personnes impactées. Le rassemblement annonce de bonnes nouvelles pour ces déguerpis. Et le mandat cite Amédée Kouakou rassurant que le président Ouattara gérera la situation avec humanisme. Enfin, du côté de l'exécutif ivoirien, Fraternité Matin relate les activités du vice-président marquées par les visites des présidents de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie en Côte d'Ivoire, mais aussi d'une délégation du FMI reçue par Tiemoko Meilekone. Et puis dans le secteur des mines et de l'énergie, Soir Info nous informe de la participation du ministre Koulangafoua au 13e sommet d'affaires nordiques africains à Oslo, où il a mobilisé les investisseurs norvégiens pour le CIREX. Le CIREX, c'est le salon interénergétique. Et nous terminons l'INA avec Fraternité Matin, qui nous propose un reportage intitulé « Mon Tompi, un trésor oublié ».
Merci beaucoup à vous, Ghislain Koulibaly. Cette revue des titres, vous serez de retour dans l'édition de 8h pour le même exercice. La problématique dont l'invité de la rédaction aujourd'hui est la crise au FPI, au Front Populaire Ivoirien. Les divergences de stratégie entre Pascal Afinguessan, le président du parti, et certains de ses cadres s'accentuent avec l'annonce par ses frondeurs d'un courant au sein du parti. Invité de la rédaction, le professeur des lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, également observateur averti de la scène sociopolitique ivoirienne, Jean-Marie Kouakou se prononce sur cette crise au FPI. Il est interrogé par Soro Adams.
Bonjour professeur Jean-Marie Kouakou.
Bonjour monsieur Soro.
Regard de l'observateur averti sur le paysage de son pays, la Côte d'Ivoire. Professeur Jean-Marie Kouakou, on entend certains dire qu'il y a en ce moment un bouillonnement du marigot politique. Seriez-vous tenté de partager ce point de vue?
Disons que de manière générale, on observe ce que beaucoup de pays ont vécu et ont observé chez eux. En principe, lorsqu'il y a des changements, il y a des alternances surtout, les partis politiques supportent bien ou mal les coûts qu'ils ont eus selon l'évolution des choses. Et ça fait que dans la plupart des pays, en général, les partis sont tenus par la nécessité de muer. Et ça commence en général par la dénomination. Des courants se créent à l'intérieur, des mouvements se créent à l'intérieur, des dissidents se créent. Et petit à petit, on observe de nouvelles dénominations, je dirais de nouvelles configurations des partis politiques dans le pays. C'est normal, c'est la vie des partis politiques, parce qu'il y a beaucoup d'ambition dans les partis politiques. Et puis il y a le jeu électoral même qui fait que lorsqu'on garde un site pendant longtemps, si le site ne se vend plus, il n'est plus commercial, il n'est plus bon à marketer, on l'abandonne.
Alors, oui. En ce moment, en ce qui concerne le Front Populaire Ivoirien, le FPI, il est question depuis quelques jours de la création d'un courant au sein de ce parti dirigé par Pascal Afinguesan. Un courant au sein d'un parti, c'est quoi?
Bon, déjà, les partis sont tenus en général par un certain ordre unitaire qui demande à ce que tout le monde obéisse au parti, tout le monde soit sous la même régie, tout le monde parle le même langage, et c'est pourquoi ce qui constitue une unité qui s'appelle parti recherche toujours son unité. À un moment donné, à l'intérieur de ce parti, certains se mettent ensemble et disent « nous pensons autrement la vie du parti ». Et donc, il crée une idéologie à part, une perspective à part. Et c'est cela qu'on appelle en général un courant politique. Ce n'est pas un parti, puisqu'ils sont à l'intérieur d'un parti. Mais dans le parti, ils ne veulent plus aller exactement dans le même sens que l'idéologie ou l'idée première de ce parti.
Divergence de stratégie?
Oui, sans doute. Disons, à l'observation, chez Pascal Afinguesan, il fallait bien s'y attendre, parce que le parti de Afinguesan a été créé dans le contexte que vous savez. Est-ce qu'il a eu beaucoup d'adhérents depuis? Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui, certains dans le parti, peut-être pour réveiller ce parti-là, disent, orientons-le autrement, créons un autre courant, modifions la perspective dans laquelle nous voulons aller. C'est ce qui explique cela. Lorsqu'on crée un parti par des textes, il faut une dynamique derrière, il faut des adhérents. Il faut des militants. Ne les a-t-il pas trouvés? Je pense qu'il ne les a pas trouvés. Le parti est resté tel qu'il était. Donc aujourd'hui, c'est normal que ceux ou celles qui l'accompagnent se demandent si c'est la bonne direction, s'il faut maintenir ce cap ou changer de cap. D'où, pour eux, le besoin de créer un courant qui s'orienterait peut-être dans une dynamique autre. Parce qu'on a vu Afinguesan qui a hésité plusieurs fois entre l'attachement au RHDP, à un moment avec le PDCI, à un moment il diffuse avec le PPACI. Donc ils ont besoin de se situer. Je pense que c'est là que se trouve l'enjeu pour eux.
Alors, dans ces conditions, le Front Populaire Ivoirien va-t-il vers sa disparition comme certains autres partis politiques par le passé?
Oui, bon, le FPI de Pascal Afinguesan, à mon avis, il est appelé à disparaître. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de plus-value quantitativement de militants qui sont venus dans ce parti. On l'a vu aux dernières élections, c'est un échec. Et du point de vue quantitatif, dans ces réunions ou ces meetings, il n'y a presque personne. C'est un parti qui va à sa propre mort.
2025, octobre, la Côte d'Ivoire va pour une élection présidentielle. Comment voyez-vous ce rendez-vous politique?
D'abord, j'ai l'impression que c'est rebelote, hein. On revient avec les mêmes problèmes jusqu'à présent. Le problème de chez nous, c'est que l'État, et de toute démocratie d'ailleurs, normalement l'État est indépendant des partis. L'État est neutre. Aujourd'hui, je vois des gens faire campagne qui deviennent des thèmes politiques, en fait, sur la nécessité de révision des listes électorales, de CEU à réorganiser, ainsi de suite. Il y a beaucoup de revendications qui se comprennent très bien, parce qu'il y a beaucoup de contentieux. Mais tout ça, ça ne devrait pas être politisé. Si l'État était neutre, l'État devient un État de droit, et l'État applique les choses de manière simple. Mais le problème des démocraties, de toutes les démocraties dans le monde, c'est que ce qu'on appelle l'État se confond en général, presque systématiquement, les gens font exprès, se confond avec le parti qui gère, par rapport au résultat de l'élection, qui gère le pouvoir. Et donc, ce qu'il faut, c'est que l'État devienne neutre et qu'il nous garantisse enfin une vraie élection en Côte d'Ivoire où on obtient un candidat dont on sait qu'il a été élu par nous parce que ça s'est passé dans un contexte de droit, de transparence, de régularité. Je crains encore qu'on tombe dans les mêmes problèmes parce que jusqu'à présent, je ne vois pas ce qui change entre ce qui est à venir en 2025 et ce qui était passé en 2020.
Et donc, professeur Jean-Marie Kouakou, inquiet pour l'avenir?
Vraiment, je suis inquiet. S'il n'y a pas de moi, je pense que les changements ne doivent pas venir des mouvements populaires. C'est pas bon. Les changements doivent venir de l'appareil étatique. C'est l'État qui doit se reprendre en main. Ceux qui sont au pouvoir actuellement doivent prendre les décisions pour faire changer les choses vers l'élection transparente, inclusive et claire, que tout se passe dans un ordre étatique. Ce qui n'est pas bon, c'est quand il y a des révolutions populaires, que des peuples sortent dans la rue, etc. On connaît le nombre de morts après et on connaît le désordre qui s'ensuit.
Je vous remercie, professeur Jean-Marie Kouakou.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
C'était Jean-Marie Kouakou, professeur des lettres à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et observateur averti de la scène sociopolitique ivoirienne. Il réagissait sur la crise au Front populaire ivoirien et répondait aux questions de Soro Adams. Un entretien qui met un terme à notre édition dont voici le rappel de l'essentiel. Le vice-président de la République, Konete Moko-Mellié, a échangé avec une délégation du Fonds monétaire international hier au palais présidentiel. Au centre de cette rencontre, l'activité macroéconomique et les défis liés au changement climatique. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, 8h.